Bonjour, ici Gras pour les Dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021 dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les Dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers la représentation biaisée qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour cet épisode, nous sommes avec Isabelle Bautian, autrice de la bande dessinée Esprit Critique, parue en 2021 chez Delcourt, et dessinée par Gali. Sur ce, bonne écoute et que le doute soit avec vous.
Je suis Isabelle Bautian, je suis romancière, scénariste de BD et traductrice, et je suis biologiste de formation, même si ça fait un bon moment que je ne fais plus de recherche. J'essaie de faire synthétique, parce qu'en fait, avant on me disait que je causais trop, donc maintenant j'ai appris à être synthétique. Hein.
D'accord, ben, dans le cadre d'une interview, c'est bien de trop causer, peut-être.
Les grosses radios genre France Inter et tout ça, et ils disent, attends, il faut que ça dure 10 minutes, et ils me posent 10 questions en 10 minutes.
Ah non, on est pas du tout à la radio, il faut
d'accord, bah, je vais prendre, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, non mais sinon, bah pourquoi l'esprit critique ? En fait, l'idée de la BD, l'esprit critique, elle m'est venue il y a plusieurs années. À la base, je suis plutôt scénariste de fiction que de vulgarisation. J'ai fait de la vulgarisation dans la presse, mais le média BD en tant que média de vulgarisation, alors je trouve ça super sur le principe, mais moi, à titre personnel, je suis pas plus sensible que ça. Je préfère lire des essais. En fait, les images, il y a des gens que les images les aident à retenir. Moi, ça me déconcentre au contraire. Donc c'est assez marrant parce qu'à la base, je suis pas du tout le public. Et Gali non plus, d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais, je sais plus, ça devait faire peut-être 5 ans, je voyais des gens, notamment au niveau du monde politique et des médias, je voyais des gens, quelles que soient leurs opinions, même des gens avec qui j'étais d'accord, qui raisonnaient de manière totalement fallacieuse, parfois de manière totalement assumée, mais au-delà de la simple manipulation politique dont on a l'habitude, et on va dire c'est triste mais c'est le jeu, c'était le début un peu de ce que sont devenus les fake news, la post-vérité et tout ça. Je sentais ça. Je me souviens, je crois que c'était Manuel Valls qui avait dit, je sais plus dans quel contexte, qui avait dit comprendre c'est excuser. Ça, pour moi, ça a été le déclic. Je sais même plus quel était le fait divers, et je sais que c'était probablement totalement démago, mais le dire comme ça, j'ai trouvé ça extrêmement grave. Comprendre, c'est pas excuser. Comprendre, c'est justement avoir la base pour résoudre le problème. Et donc après, je veux dire, on peut comprendre les causes, et après on peut être parfaitement sévère pour les traiter. Ça, je veux dire, c'est totalement, enfin, chacun juge en fonction de ses convictions mais dire comprendre, c'est excuser, c'était absolument effroyable, c'était une ode à la bêtise. Et je crois que ça avait été le déclic, cette phrase-là. Et en fait, je connaissais Boulet. On s'était croisés en festival comme ça. Mon idée à la base, c'était de faire une bande dessinée sur l'esprit critique la plus large possible. Et ce que je voulais, c'était avoir des gens connus pour le faire. Totalement cyniquement, je lui ai dit, hein, je savais qu'il s'intéressait à ça, à ces sujets, à la science de manière générale, à l'épistémologie, à l'esprit critique au particulier. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que j'aimerais, à la limite, est-ce que ça t'intéresserait de le co-scénariser avec moi, ou alors on fait carrément un collectif, et puis toi et moi, ou toi ou moi, on chapote. À la limite, moi, ce que je veux, c'est que le bouquin sorte et qu'il ait du public. Donc, je voulais qu'il y ait des gens avec un certain public qui porte ça. Et en fait, il m'a dit que ça l'intéressait, qu'il avait malheureusement absolument pas le temps parce qu'il était totalement surbooké à cette époque-là, mais il commençait à bosser sur la collection Octopus au chez Delcourt. Et il me dit, par contre, ça m'intéresse carrément d'avoir ça dans la collection. Et donc, bah, c'est parti. Et du coup, je l'ai fait toute seule. Enfin, toute seule. J'ai fait le scénario toute seule, évidemment. Je l'ai fait avec Gabi.
D'accord, donc l'enjeu à la base c'était de plutôt parler de politique en fait à travers l'esprit critique.
Alors, non, c'était pas par les politiques. Justement, je voulais essayer d'éviter. Alors, c'est clairement le paysage politique, droite ou gauche, hein, vraiment. C'était vraiment le paysage politique et la manière dont ces choses-là commençaient à être liées dans les médias. Donc, c'était le paysage politique et médiatique qui m'a lancé là-dedans. L'idée, c'était plutôt de contrecarrer cette tendance à fouler au pied totalement l'esprit critique et la bonne foi. D'une manière que j'estimais extrêmement dangereuse, en fait. Voilà, c'est ce que je disais, c'était au-delà des petites manipulations diplomatiques, partisanes, politiques. C'était vraiment, je voyais un changement d'état de pensée, un truc, bon, c'est un peu caricatural, dire comme ça, un peu à l'américaine. Avec ce côté, vous avez le droit à votre opinion, c'est équivalent à toutes les opinions se valent. Pas du tout. Vous avez le droit à votre opinion, mais toutes les opinions se valent absolument pas. Il y a des trucs qui sont factuellement faux, désolé. C'est pas grave, mais c'est la réalité. Et on peut mettre toute l'idéologie qu'on veut derrière. La réalité ne changera pas. Les faits s'en foutent complètement de votre opinion. Et donc, non, c'était plutôt une réaction à ça. Et justement, en fait, je voulais un truc très général. Je voulais éviter d'avoir des exemples, précis, de l'actu, parce que je voulais que ce soit un truc qui puisse, si possible, ne pas vieillir trop vite. Donc non, ça se voulait vraiment général dès le début. Et le truc, c'est qu'en fait, je voulais pas toute la partie purement scientifique. C'était pas le cœur du livre. J'étais obligée d'en parler parce que pour aborder comment mettre les choses en pratique, comment raisonner avec bonne foi, comment distinguer foi et fait, comment s'engager. Donc avec des opinions par essence subjectives, mais tout en gardant son esprit critique, c'était ça vraiment le cœur du livre. Mais pour avoir ça, il fallait que j'aborde tous les aspects plus épistémologiques, plus scientifiques. Et donc c'est aussi pour ça que la partie notamment sur la méthodologie scientifique que dans le livre est vraiment traitée de manière très condensée sur 2 pages. Elle est destinée à être ben voilà assez simplifiée et en même temps en montrant l'essentiel. Et pas force et enfin, je voulais avoir cette espèce de double page où les gens peuvent aller regarder régulièrement pour ah oui ce rappel il y a ci il y a ça. C'était pas le truc vraiment à retenir immédiatement du livre, c'était le truc sur lequel j'étais obligée de me baser parce que et je voulais aussi montrer les en quoi enfin, je voulais contrecarrer aussi cette espèce de truc qu'on entend parfois, toi tu crois en la science, ce que je trouve totalement absurde. Donc il y a des gens, enfin, comme je l'ai dit dans le livre, il y a des gens qui pensent, à tort ou à raison, que la science, c'est le seul moyen de trouver des réponses, que la science, voire potentiellement, peut donner toutes les réponses. Donc ça s'appelle le scientisme. Ça, je suis d'accord que ça relève à minima de l'opinion subjective, voire de la foi. Mais la science, c'est pas ça. La science, c'est la méthode scientifique, c'est un outil. Et me dire tu crois en la science, c'est comme si on me disait tu crois au marteau. Je voulais vraiment contrecarrer ça. Et donc en fait ouais voilà l'idée c'était de poser les bases pour pouvoir amener après une réflexion sur comment mettre ces choses-là en pratique, même si on n'est pas même hors cadre scientifique. Voilà. Et sans non plus présenter la méthode scientifique comme une panacée. La méthode scientifique, c'est le meilleur outil possible au temps T. C'est un outil qui s'améliore. D'ailleurs, même dire la méthode scientifique, c'est pas très, c'est enfin, déjà c'est très simplifié. Mais bon, on va dire ça pour simplifier. Mais déjà, c'est un outil qui s'améliore régulièrement. Et c'est si on peut très bien imaginer que demain un meilleur outil survienne. Et dans ce cas-là, bah ok, ça remplace. Mais donc, je voulais comment dire le L'outil méthode scientifique, c'est un outil qui est lui-même très conscient de ses limites. Et donc je voulais aussi montrer ça, et je voulais aussi un peu contrecarrer ce côté Je ne pense pas que ce soit la majorité, mais je pense que c'est une minorité très visible des sceptiques et enfin, de la communauté sceptique. Ce côté très hautain, très. J'ai vu une liste de sophismes bien cognitifs sur Pinterest, donc ça y est, maintenant je suis un esprit éclairé. Et cette espèce de mépris de la foi. Donc moi, je suis totalement athée et les religions, en tout cas les religions organisées, sont vraiment pas mes potes. Mais c'est pas pour ça que je vais taper sur les croyants. C'est pas pour ça que je vais partir du principe qu'un croyant ne peut pas être un sceptique. Ça, je suis mais vraiment totalement contre. Enfin, je connais des croyants qui sont parfaitement sceptiques et des croyants qui admettent totalement que leur foi ne relève pas des faits, justement. Et partant de là, pour moi, ça, c'est la base du raisonnement, en fait. C'est pas d'essayer de supprimer tout ce qui relève de la foi, que ça prenne un tour un peu, j'allais dire, extrême, un peu, comment dire, enfin, aussi fort qu'une religion. Ou que ce soit simplement bah, nos sentiments qui interfèrent, notre culture qui interfère avec notre raisonnement. On ne peut pas se supprimer la foi. L'important, c'est d'être capable de distinguer ce qui relève bah, de la foi au sens très large, donc ou de nos convictions, ou de nos sentiments même, ou de nos biais. Et la réalité et les faits, la factualité. À partir du moment où on base notre raisonnement sur cette bonne foi, pour moi, si j'ose dire, dans le contexte, c'est pas très grave d'avoir des irrationalités à côté. Parce qu'elles vont pas forcément parasiter notre raisonnement, et même quand elles le parasitent, on sera capable de dire, là, désolé, je sais que je suis pas objective, mais pour moi, c'est comme ça. Et si déjà on arrivait à ça, je trouve qu'on aurait fait un grand pas en avant. Et c'est aussi pour ça que le héros de la BD est un sceptique, enfin, un sceptique. Et quelqu'un qui pense faire preuve d'esprit critique, quelqu'un qui n'est pas croyant. Beaucoup d'ouvrages de ce type ont tendance, enfin, en tout cas quand ils prennent l'élément fictionnel pour apprendre, enfin pour être didactique, ont tendance à avoir un sachant et un idiot. Un idiot au sens large, un idiot au sens narratif du terme, c'est-à-dire la personne qui ne sait pas et qui va poser plein de questions et tout. Et je trouve que dans ce contexte, ce n'est pas forcément une très bonne idée parce que ça donne vraiment l'impression qu'il y a ce sachant qui va exprimer à cette pauvre cloche, qui explique à cette pauvre cloche comment penser. Et du coup, je trouve pas ça très constructif, on va dire. Et je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un, bah justement, qui, sans être rigoureusement un sceptique, a l'impression d'être de bonne foi, sincèrement, ne sombre pas facilement dans les théories du complot, ne se laisse pas non plus facilement manipuler. Je trouvais que c'était aussi bah, déjà que les gens allaient s'identifier plus facilement à quelqu'un qui a quand même un minimum de recul sur les choses. Et aussi, je trouvais que c'était une question de respect vis-à-vis du lecteur, parce que bon, voilà, j'aimais pas ce côté grand maître face au petit scarabée. Je voulais quelque chose d'un peu plus équilibré, d'un peu plus nuancé. Et en fait, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais en fait, pour en revenir à la jeunesse du livre, quand Boulet m'a parlé de la collection Octopus, on va dire Octopus, c'était un prérequis de la collection. Il fallait qu'il y ait un élément de fiction. Ça pouvait être n'importe quoi. Quand j'ai lancé l'idée, j'étais pas sûre de faire ça. J'hésitais entre ça et quelque chose de plus purement didactique. Et donc c'est de là que c'est venu qu'il y avait ce dialogue entre deux personnages de fiction.
Ok, bah en parlant du sachant et de l'idiot, finalement, on les retrouve un petit peu, non? Parce qu'il y a le personnage du sachant qui pourrait être cette espèce de la fille avec des cheveux roses qui change d'aspect tout le temps. Pourquoi vous avez représenté l'esprit critique comme ça, d'ailleurs?
Alors, moi, honnêtement, ça m'amusait un peu ça m'amusait un peu d'avoir une femme. Déjà, c'est tout le temps des mecs en général, le sachant. Donc, je me suis dit, bon, juste histoire de varier un peu, parce que voilà. Et en plus, alors après, dans l'idée aussi, c'est quand elle arrive, le personnage principal, la voit comme une chieuse. Et en fait, il la voit avec les traits de l'espèce de chouchoute de la maîtresse de CM2. Et à partir du moment, et donc elle va changer, elle est totalement protéiforme, elle va changer, mais elle garde cette identité. Et à partir du moment où il commence à avoir, moi je vais spoiler un peu, mais c'est pas grave, c'est pas non plus comme si c'était un bouquin suspense. Il y a une scène où, quand il commence à vraiment bah, être un peu plus ouvert à ce qu'elle dit, à lui-même exercer son esprit critique, même vis-à-vis de ce qu'elle lui raconte par moment, il la voit, et elle devient un vieux mec. Et en fait, elle prend les traits de d'un patron, d'un de ses premiers patrons, qui avait été comme une figure paternelle pour lui. Et c'était aussi pour montrer la manière dont les biais de mon personnage principal lui faisaient se représenter une personne qui le remettait en question. Voilà, au début, c'est forcément la petite emmerdeuse. Donc c'était pour ça. Bon, après, c'était. Il fallait que je lui donne une forme, et je me suis dit bon bah si je fais ça, ça aura un peu plus de sens plutôt que d'avoir un vieux sage ou même une vieille sage. Je trouvais. Et oui, après on reste sur la structure un peu de l'idiot au sens large et du sachant, mais je veux dire mon idiot n'est pas bête. Voilà, c'est ça, c'est, il est, il a vraiment, il est, il veut être de bonne foi, il veut raisonner intelligemment et jusqu'au bout, il remet en question aussi ce que lui dit cette figure sachante et il le fait de manière pas forcément idiote. Hein, c'est pas juste je me braque. Donc je voulais avoir cette dynamique un peu plus sympathique, on va dire.
Et d'emblée, dans la première scène, il est d'ailleurs catégorisé comme sceptique par les autres. Il y a quelqu'un pendant la discussion qui lui dit Ah, un sceptique, un peu comme ce que vous disiez, les sceptiques sont condescendants, agressifs, désagréables. C'est
Bah,
ça?
c'est ouais, ça, parce que bon, en l'occurrence, c'est super désagréable sur cette première scène. Et puis il y avait aussi un sceptique, comme on aurait dit, je sais pas, comme on aurait dit, je sais pas, par exemple, un catholique. Comme si le fait d'être, j'ai absolument rien contre les catholiques, c'est juste le premier exemple qui m'est venu, mais je veux dire, être catholique, c'est vraiment, ou même un mec de gauche, voilà, ça peut être n'importe. Être sceptique, c'est pas une opinion personnelle, c'est juste avoir une démarche d'esprit critique. Et je trouve ça, c'est ce que je disais quand on a dit, ouais, toi, tu crois en la science. Non, enfin, être sceptique, c'est pas, alors ça peut être un art de vivre si on veut, mais qu'on utilise plus ou moins bien, mais c'est pas, ça relève pas de la foi. D'être sceptique. Au contraire, c'est de dire, bon, bah, je vais faire un effort. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais utilisé le terme zététique, parce que je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé et qui a un côté un peu prétentieux, même si c'est pas censé être ça. Et puis, en plus, bon, c'est un terme, c'est très français. Les Anglais, ils disent sceptique. Les Français, ils sont allés chercher un mot grec ou un truc que personne ne sait ce que ça veut dire quand ils l'entendent. C'est un mot que je trouve très élitiste par ailleurs. Mais oui, enfin, quand tu dis ah, un sceptique, c'est quand même super surréaliste, enfin, c'est quand même surréaliste de se faire catégoriser dans une manière de penser sous prétexte qu'on essaie d'être ouvert d'esprit, en fait. Le scepticisme, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la remise en question, mais c'est aussi c'est la remise en question de ce qu'on nous dit, mais c'est aussi la remise en question personnelle. Et d'avoir cette espèce de sentence ah, un sceptique donc on peut pas discuter. De toute façon, tu penses comme ça. Le paradoxe est atroce, quoi. Et pour moi, c'est la base de ce problème de représentation aussi de l'esprit critique et de la science d'une manière générale, notamment dans les médias, comme si les gens qui arrivent avec des faits ou à minima avec des théories qui ont été soumises à l'expérimentation et qui sont solides, sont présentés comme une opinion. On voit ça, moi je l'ai traité dans le livre, on voit ça dans le cas du réchauffement climatique. C'est John Oliver, un présentateur et comique américain qui avait fait ça sur HBO. Il avait montré, quand on voit un débat sur le changement climatique, il y a Bill Nye, the science guy, donc vraiment peu importe, un scientifique, face à un climato-sceptique. Et c'est présenté comme deux opinions équivalentes. Peu importe qu'en fait le scientifique, en fait, il arrive avec des faits, ou en tout cas avec un consensus scientifique, un consensus scientifique les plus nets qu'on a actuellement, il en revient à une opinion. Et non, non, c'est pas du tout équivalent. C'est sinon, enfin, on peut faire la même chose entre ceux qui croient. Est-ce que les dragons existent? Voilà mon gamin de 4 ans face à la communauté scientifique qui va lui dire, bah, non les gars, et on met juste face à un scientifique et on met mon gamin de 4 ans et on dit comme si et ses opinions sont équivalentes. Alors après, on peut tester l'existence des dragons, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais donc encore une fois. Toutes les opinions peuvent être examinées, mais toutes les opinions ne se valent pas. Et les présenter comme des choses équivalentes et présenter aussi des faits ou à minima des théories soumises à l'expérimentation et validées par l'expérimentation et des opinions plus ou moins perchées, non, c'est pas possible. Il faut montrer, on peut pas les présenter comme équivalentes. Il faut présenter la réalité dans les médias, dire au moins qu'il y a un consensus. Et honnêtement, au bout d'un moment, quand une opinion ou une hypothèse, on va dire, pour les traiter bien, quand une hypothèse a été invalidée depuis des décennies par des centaines et des centaines de scientifiques, je pense qu'il est temps d'admettre que cette hypothèse est peut-être fausse et que c'est peut-être pas la peine de lui donner de la voix dans les médias. Ce qui n'est pas la museler, encore une fois, on n'invite pas dans les médias des gens qui disent que les dragons existent. On n'invite pas dans les médias des gens qui disent que le Père Noël, c'est une réalité. Et je dis pas ça de manière méprisante. Je dis qu'à partir du moment où, au bout d'un moment, quand c'est faux, quoi. Et on peut pas inviter n'importe, enfin, donner de la représentation. Il y en a une infinité d'idées. Plus ou moins perché et pas même des fois pas perché, mais je veux dire, tout le monde peut avoir une idée originale. On va pas tendre le micro à toute personne qui a une idée originale. À un moment, il faut arriver un peu avec des billes. On ne peut pas perdre notre temps à discuter ad nauseam de choses soit qui n'ont aucun fondement, soit qui ont été démontrées fausses. Faut tourner la page au bout d'un moment. Et ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression de tourner la page sur des choses qui n'ont aucune légitimité. Après, bah, si ces gens avec des idées qui ont été réfutées arrivent avec de nouveaux éléments, bah, ma foi, oui, avec plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'avant, il faut avoir un peu de maturité tout bêtement sur ces choses-là. Je suis désolée, mais si c'est faux, bah, c'est faux, quoi.
Oui, la liberté d'expression, elle a bon dos pour justifier n'importe quelle prise de parole.
Mais c'est ça, et puis, je veux dire, et ça fait, enfin, on tend pas le micro à tout le monde dans la vie. En fait, ce truc de la liberté d'expression et du « on ne peut plus rien dire » d'une manière générale, il est brandi par des gens qui ont tellement l'habitude qu'on leur demande leur avis que juste si un jour on ne le leur demande pas, ils ont l'impression qu'on les censure. Mais 99% des gens ne leur demandent jamais leur avis. Il n'y a pas un droit à être dans les médias. Et évidemment qu'ils peuvent toujours exercer leur liberté d'expression, mais un droit à la diffusion, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas le temps, hein, tout bêtement. On ne peut pas, je ne sais pas combien on est de milliards sur Terre, mais il n'y a juste pas le temps de filer un micro à tout le monde. Donc à un moment, il faut faire un choix.
On reviendra sur la présentation des sceptiques et du scepticisme. Et je voulais vous demander aussi où est-ce que vous vous situez par rapport à la sphère sceptique, à la zététique? Parce qu'à la fin de la bande dessinée, il y a plein de sources qui sont, je pense, assez connues des sceptiques en général. Et même tout au long du bouquin, il y a plein de citations sceptiques, de proverbes sceptiques qui sont assez connus dans notre milieu. Du coup, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça?
Alors, honnêtement, je fréquente plus trop la communauté sceptique parce que, enfin, comme je vous dis, enfin, je fréquente certaines personnes et je suis certaines personnes, bah, beaucoup celles que j'ai mises en lien. Enfin, oh, le lien, qu'est-ce que je raconte, celles que j'ai mises en annexe. En fait, ça fait un moment que je n'y suis pas retournée, donc ça a peut-être changé, mais moi, j'étais vraiment très dérangée par cette minorité, je pense, très bruyante, très, très présente. Qui était très hautaine, qui ne se rendait pas compte de ses propres biais. Moi, l'espèce d'ironie de ça, de voir des gens professer l'esprit critique tout-puissant et n'avoir aucun recul sur eux-mêmes, honnêtement, me blessait un peu. Et j'avais en plus l'impression vraiment d'en avoir fait le tour. Donc, je suis plus du tout sur les forums, les groupes sceptiques. Enfin, si je suis sur psychologie et scepticisme scientifique sur Facebook, parce que je trouve ça intéressant bah justement d'avoir les sciences, de concilier l'esprit critique et les sciences sociales. Ça aussi, il y a un certain mépris des sciences pas exactes, ce qui était un peu. La vie n'est pas un théorème, au bout d'un moment, j'ai envie de dire. Donc, on est quand même. À un moment, il faut vivre dans le monde. Je suis d'accord que les sciences sociales ou même les sciences non exactes, même les sciences un peu plus dures non exactes, hein, moi je suis biologiste de formation, ne peuvent pas forcément arriver avec le même degré d'exactitude que les maths ou certaines branches de la physique. Mais le fait est qu'on vit pas dans la, on vit pas dans les maths, on vit dans la vraie vie et à un moment, je trouve que ça sert à pas à grand-chose. De viser l'esprit critique si on n'essaie pas de l'appliquer à la réalité. Et moi, j'avais l'impression, enfin, je vois une espèce, je pense encore une fois que c'est pas la majorité, mais je voyais une espèce d'immobilisme une partie de ces communautés qui, bon, je vais caricaturer un peu, mais qui en gros disait que tant qu'une idée n'avait pas été baquée par 12 prix Nobel et soumise à je sais pas combien de tests, bah ça servait à rien. Enfin, cette idée n'avait aucun sens. On peut s'engager dans la vie. On peut s'engager en gardant son esprit critique. Encore une fois, on peut dire bon là c'est mon interprétation, mais à la lumière des faits, j'estime que on peut être de gauche. On peut être de droite, on peut s'engager politiquement, on peut s'engager dans la lutte des personnes, enfin pour les personnes qui subissent des discriminations. On peut admettre que des fois cette lutte est basée sur des témoignages, qu'il n'y a pas forcément eu 50 études en double aveugle sur la validité de ces témoignages et sur leur côté systémique, mais qu'au bout d'un moment, les témoignages, ça s'appelle des données, enfin, ça fait partie des données. Et on ne peut pas les balayer sous prétexte qu'elles sont partiellement subjectives, qu'on peut considérer qu'on a au moins un faisceau de présomption assez solide, et qu'on peut rester ouvert après à des études qui seront faites de ces choses-là, mais qu'on ne peut pas rejeter n'importe quelle cause sous prétexte qu'elle est basée sur des choses pas à 100% objectives, parce que dans la vie, rien ne l'est jamais. Et donc, si je devais me positionner, moi, ce serait plutôt ça. Et je vois de plus en plus de sceptiques qui commencent à dire, non, mais là, les gars, faut arrêter. On n'est pas des créatures de pur esprit. À commencer par vous-même, qui méprisez beaucoup. Parce que c'est vrai que moi, pour côtoyer un peu les milieux militants, c'est vrai que des fois, il y a des trucs, c'est super agaçant. Quand on se veut un peu sceptique, on voit sortir des trucs qui sont d'une mauvaise foi phénoménale, même par des gens. Dont on adhère avec les idées, on a envie de leur dire non mais les gars, voilà, c'est, on comprend le côté com et tout ça, mais là c'est super pas rigoureux ce que vous dites. En plus, on imagine les gens en face qui vont sauter dessus voilà. Et je comprends que ce soit agaçant, mais finalement ça m'agace moins de voir des gens qui subissent des oppressions et qui des fois s'énervent un peu. Plutôt que de voir des sceptiques qui font la même chose, alors qu'eux, ils n'ont même pas l'excuse d'être concernés par une oppression, si vous voulez. Je peux tolérer un minimum de subjectivité chez des gens qui souffrent et qui, au bout d'un moment, voudraient juste que ça avance. Et je suis, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, je suis absolument persuadée qu'on peut militer de bonne foi. On ne peut pas militer objectivement, je ne pense pas, mais on ne peut pas vivre objectivement. On dépend toujours d'un tas de facteurs. Mais je pense vraiment qu'on peut appliquer l'esprit critique. Et je pense honnêtement que enfin, ce que je disais, c'est ça. À quoi ça sert si ce n'est pas pour l'appliquer dans la vie? Et d'une manière générale, c'est un truc avec les. Enfin, voilà, moi j'ai fait des études supérieures, je travaille dans un milieu intellectuel, j'ai un doctorat, tout ça. Et donc, je suis vraiment à la base dans les milieux intellectuels, et c'est un truc avec lequel j'ai toujours eu un peu de mal dans les milieux intellectuels, c'est cette espèce de la connaissance pour la connaissance. Les connaissances, c'est intéressant quand on en fait quelque chose. C'est comme dans le milieu littéraire dans lequel je suis, maintenant il y a une espèce de sacralisation de la lecture, hein, voire du livre. Et tout un tas de phrases toutes faites sur le fait que le lire fait de nous des gens éclairés, mais sans déconner, ça se saurait. Hein. Non, enfin, je suis désolée, vous pouvez avoir lu tous les plus grands maîtres de la littérature, si vous n'avez pas pris si vous n'avez pas pris de recul dessus, ou si vous êtes resté juste sur le joli verbe et que vous vous sentez très cultivé, bah, je suis désolée, bah, attends, je comprends ce que ça peut avoir de super intellectuellement parlant, voire de jouissif, d'apprécier un beau verbe. Hein. C'est très, je veux dire, c'est beau en soi, mais désolé, vous ne servez à rien, quoi. Enfin, ça sert d'avoir, ça sert, mais c'est un loisir, si vous voulez. On reste dans, même si c'est très intellectuel, on reste dans le domaine de loisir et c'est l'essentiel. Mais je veux dire, prétendre qu'on a un esprit éclairé parce qu'on a toute la Pléiade et qu'on l'a lu. C'est parfaitement stupide et moi je préfère des gens qui vont lire des livres d'un style peut-être un peu facile mais qui posent des questions et qui en ont tiré des réponses ou même des gens qui lisent pas et qui je veux dire il y a d'autres médias, il y a d'autres arts. Moi, j'adore la lecture et j'aime les gens qui lisent, mais cette espèce d'élitisme, on a l'impression qu'on a un pass, dès lors qu'on a des extensions de Billy, on a un pass cultivé. Mais la culture en soi, c'est juste l'accumulation de connaissances. L'important, c'est ce qu'on va en faire derrière. Et encore une fois, aucun mépris pour les gens qui aiment accumuler des connaissances, d'autant plus que j'aime ça moi-même. Mais ça fait pas de vous quelqu'un d'intéressant, ça fait pas vous quelqu'un d'intelligent. Enfin, d'intelligent, non, ça fait pas vous quelqu'un d'intelligent. Et ça fait pas vous quelqu'un qui sert à quelque chose dans la vie. Et on n'est pas obligé de vouloir s'engager et servir à quelque chose, mais on peut vouloir simplement s'occuper de soi. Et bon, c'est légitime. Mais venez pas donner des leçons dans ce cas-là. Et je vois beaucoup ça dans les milieux intellectuels et ça me pose un réel souci, vraiment. C'est pour ça que je suis pas très communautaire en plus d'une manière générale. Hein. C'est pas que je veuille à tout prix être un électron libre, mais c'est qu'à chaque fois que j'ai rejoint une communauté, je trouvais qu'ils vivaient tellement pas à la hauteur de ce qu'ils professaient que voilà.
Oui, ce que vous dites, ça rejoint beaucoup ce que je vois aussi dans le milieu sceptique, les critiques qui émergent comme quoi les sceptiques seraient malgré eux, des fois, sans en avoir conscience, des défenseurs du statu quo, parce que ils se jettent sur les premières critiques à faire venues en défendant des oppressions systémiques sans s'en rendre compte, quoi.
Bah, c'est ça, en fait, oui, je crois qu'il faut être vraiment très naïf pour dire je suis apolitique. Si on est apolitique, par définition, qu'on le veuille ou pas, on défend le statu quo et on peut être très très bien dans ce statu quo et ça peut être notre opinion politique. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je veux dire, on peut l'assumer. Mais je veux dire, estimer que sous prétexte qu'on, en fait, oui, c'est ce que vous avez dit, quoi. On ne vit pas en dehors du monde, on n'est pas des créatures de pur esprit et à un moment, c'est ce que je dis dans le livre, c'est ok, les témoignages ont une validité faible d'un point de vue scientifique. Ceci étant dit, on peut quand même considérer quand on a des centaines voire des milliers de témoignages qui disent tous la même chose, ça peut quand même allumer des warnings. Mais je suis d'accord que le témoignage ne suffit pas. C'est les gens qui témoignent, c'est ceux qui sont au plus près des données, encore une fois. Après, oui, il faut aller les chercher, les données, aller les chercher de manière plus rigoureuse si on veut. Les témoignages devraient au moins nous inciter à la vigilance et à la curiosité. Je ne comprends pas qu'on puisse se prétendre scientifique ou sceptique et ne pas avoir la curiosité quand on voit tant de témoignages, de se dire, même d'un point de vue totalement détaché, pas engagé du tout, tiens, et s'il y avait quelque chose à étudier, juste ça, c'est la base. Et je suis désolée, pour moi, ils sont en dissonance cognitive, les gens qui réagissent comme si ces témoignages n'avaient aucune valeur. Le témoignage, c'est la base. Ça suffit pas. C'est un faible niveau de preuve. Mais ça ne se balaie pas d'un verre de la main, surtout quand il est aussi récurrent.
En regard de tout ce qu'on vient de dire, le public de la bande dessinée, enfin, est-ce que vous avez imaginé un public spécifique en l'écrivant? Est-ce que ça serait, là j'émets la supposition que c'est du coup cette frange de la communauté sceptique qui serait, cette minorité bruyante qui serait intolérante et hautaine.
Alors ils en font partie. Le public, je voulais vraiment avoir un public au sens large de gens qui ne sont pas forcément scientifiques à la base. C'est pour ça aussi que j'ai rappelé les bases, parce que toute cette frange de la communauté sceptique, il y a une grande partie de ce que je dis dans le bouquin, ils connaissent déjà. Non, je voulais un public, enfin, de néophytes, de néophytes curieux, bon, parce que ça reste, de toute façon, c'est sorti dans une collection scientifique, donc les gens qui vont aller acheter ça, c'est déjà qu'ils ont une certaine curiosité. Mais oui, je voulais vraiment des néophytes. Je voulais des littéraires aussi. Je vois, j'ai vu autour de moi, dans le milieu dans lequel je travaille maintenant, j'ai des gens qui étaient là. Et, téléphone, pardon. J'ai dit que je m'ai confuse.
Aucun souci.
Oui, alors attendez. Oui, donc oui, je vois dans la communauté plus littéraire que je côtoie maintenant beaucoup de gens qui n'ont pas forcément cette culture scientifique justement. Donc je voulais aussi leur parler et ça a bien marché pour le coup. J'ai eu beaucoup de retours que je pense que comme je suis romancière à côté, j'ai un public un peu de plus de fans de lettres aussi et qui sont allés voir parce que c'était moi l'autrice et qui n'étaient pas du tout au courant, pas forcément qui n'y connaissaient rien en sciences, mais qui connaissaient pas en fait vraiment le scepticisme scientifique, qui en avaient vaguement entendu parler, mais voilà. Et donc ils étaient très très intéressés par ce qu'ils ont découvert. Mais oui, je voulais un public assez large et je voulais essayer, oui aussi de prendre le contre-pied et éventuellement de remettre un peu en question idéalement ces sceptiques qui ont tendance à se prendre pour des créatures de pur esprit et à vouloir et à défendre un peu le statu quo parfois absolument sans s'en rendre compte. En fait, ce que je voulais avec ce livre, c'était avant tout induire du recul sur soi. Parce que, enfin, sur soi, au sens large, sur soi, sur son environnement, sur son statut socio-économique, sur sa famille, sur ce qu'on veut. Pour moi, c'était plus important. C'est vraiment la base. Quand je disais distinguer foi et fait, que si à partir du moment où on distingue foi et fait, c'est pas si grave si on a si on a la foi. C'est au sens plus large, c'était ça, c'était essayer d'avoir du recul, juste de faire la distinction, juste de se dire, enfin, des fois, quand on voit une info et qu'on a un sentiment super fort immédiat vis-à-vis de cette info, de se dire, ah, je vais peut-être pas réagir tout de suite, je vais peut-être laisser un peu poser le truc, parce que bizarrement, tout d'un coup, je suis en colère, ou alors tout d'un coup, je suis très joyeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était juste une info. Donc, on va peut-être juste laisser reposer le soufflet. Et oui, voilà. Non, c'était, voilà, je visais un public assez large, un public de néophytes. Et j'espérais aussi parler avec bienveillance, j'espère, même si j'ai pu me moquer gentiment parfois. Parce que, bon, des fois, c'est quand même un peu ridicule, quand même, des fois, des trucs que j'ai entendus. Mais non, mais j'ai essayé de le faire quand même avec bienveillance, puis avec ouverture. Enfin, je veux dire, on peut discuter. Hein. Je vois aussi quelles sont les limites du discours assez tolérant vis-à-vis des religions que j'ai pu avoir dans la BD. Bon, très clairement, j'ai moi. Enfin, voilà, je suis restée sur une position sceptique et athée vis-à-vis de ça, mais je sais que je suis plus tolérante que l'ont pu être d'autres ouvrages sceptiques, notamment des ouvrages américains de référence, parce que bon, faut dire que la situation aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en Europe vis-à-vis des religions. Donc là, je comprends qu'ils soient un peu plus braqués. Je sais que ça, c'est tout à fait. Ça se discute, hein, voilà, quand enfin, la position, enfin, j'ai pas développé la position agnostique, par exemple, ou enfin, bon, je me perds un peu mon fil, mais je sais que, voilà, des gens pourraient dire que, bon, oui, c'est effectivement, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas obligé d'être aussi agressif, ou en tout cas aussi méfiant de la religion, que le sont les sceptiques américains, que, ok, enfin, comment dire? Que, ok, une personne religieuse de bonne foi peut peut-être exercer son esprit critique, mais qu'il y a une vraie menace des religions organisées. Ça, par exemple, je l'ai pas traité et je trouve que c'est un truc qu'on pourrait effectivement me reprocher. Bon, après le bouquin, il faisait que 120 pages, je pouvais pas tout faire non plus. Mais voilà, je sais toute la partie. qui est le cœur du livre et auquel tout amène, c'est faire la distinction entre foi et fait. Est-ce qu'on peut militer objectivement, comme on l'a dit? Est-ce qu'on peut concilier religion et scepticisme? Je sais que c'est un sujet complexe, qu'on peut pas juste répondre, bah oui, regardez, c'est possible, il y en a qui arrivent. Évidemment que la religion peut, surtout en tant que cas de religion organisée, peut être une immense menace vis-à-vis de l'esprit critique. Évidemment que le militantisme et la démagogie qui peut lui être associée, et de manière générale les stratégies de com, peuvent être une menace vis-à-vis de l'esprit critique. Et donc, il y a vraiment quoi discuter sur cette partie. Mais justement, c'est ça que je voulais amener. Je voulais lancer le défi du bah maintenant, mettons, appliquons ça au vrai monde. Le problème que j'ai, c'est, et pourquoi j'ai été relativement tolérante par rapport à d'autres bouquins sceptiques vis-à-vis de ça, c'est je voulais aussi contrebalancer le fait, bah, comme on a dit, que beaucoup de bouquins de scepticisme restent sur la théorie. Ou alors, bon, si on apprend à éviter les sophismes, on apprend à regarder dans les médias, voilà, bon. Mais je veux dire, je voulais pouvoir lancer ce débat. Quelles sont les limites de cette tolérance? Quelles sont les. Voilà, enfin, je me perds un peu. Mais on aura de quoi monter, là, c'est
Oui, parfait. Non, mais je
Je me
suis
rends compte
d'accord avec.
qu'on est toujours à mon point de départ, là, donc.
Je suis d'accord avec l'idée générale. De toute façon, un esprit critique qui serait inoffensif, qui s'attaquerait pas à nos idées, qui serait pas un minimum douloureux, en fait, servirait à rien.
Et voilà, c'est ça. Je veux dire, après, on peut se contenter hein, d'essayer d'être le plus objectif possible, mais je pense que le monde nous rattrape sans arrêt. Et à un moment, je pense qu'il faut avoir la maturité d'admettre que le monde ne sera jamais objectif. Pas que le monde, la science, enfin, comment dire, le monde, la nature et tout ça, et bon, scientifique et tout, mais je veux dire, que les autres et nous-mêmes ne seront jamais totalement objectifs. Et je pense, bon, après, il y a des gens qui vivent leur vie en visant un idéal, hein, en sachant qu'ils l'atteindront, pardon, jamais. Cette démarche très spirituelle, je trouve, d'ailleurs, paradoxalement. Viser cette espèce d'objectivité, ça revient un peu, je trouve, à ces croyants qui visent l'éveil, sachant qu'ils ne m'attendront pas. Je trouve que j'ai un peu une démarche pareille, qu'on pourra juger très sage ou très naïve, selon nos convictions. Mais après, ouais, voilà, je voulais que ça ait un côté pratique et un côté pratique un peu général, pas juste un côté pratique. Oui, exercez votre esprit critique quand vous lisez des articles de presse. Ok, bon, voilà, super. Non, c'est la base. Hein, je trouve ça génial que des gens fassent ça. Mais je voulais essayer d'avoir un apport plus vaste et plutôt que de dire, bon, bah voilà, certes, la religion peut menacer l'esprit critique. Certes, le militantisme a ses écueils. Le fait est que ces choses-là existent. Donc maintenant, comment on fait, comment on vit avec et comment on essaie de vivre avec tout en ayant du recul et de l'esprit critique et de la bonne foi. Vu que le monde ne va pas changer pour nos beaux yeux, c'est peut-être aussi à nous de faire l'effort, et on peut faire l'effort sans se renier. Hein. Moi, encore une fois, je suis athée.
Quand je discute des limites de l'approche, on va dire, l'approche classique de l'esprit critique, de la zététique, il y a des idées qui reviennent souvent. C'est ce qu'on a évoqué, le fait qu'il n'y a pas une méthode scientifique, le fait que la science ne donne pas de certitude, qu'elle n'est pas absolue, que la science n'est pas objective, que se contenter de faire des listes de sophismes, ça suffit pas. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, dont des sceptiques, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que on est beaucoup à être d'accord avec ça, tout en n'en tirant pas des conséquences pratiques. C'est-à-dire qu'on prétend ne pas être scientiste, on prétend savoir que la science n'est pas objective. Et dans nos discours et dans nos pratiques, en fait, on fait tout l'inverse.
Ben, c'est ça, en fait, oui. Et en fait, c'est, oui, voilà, c'est, avec ce livre, j'ai voulu donner des clés pour essayer de se l'appliquer à soi-même. Le truc, c'est que je sais que, enfin, ça peut venir que de la personne, ça. Et ça demande un gros, gros courage de, c'est de la dissonance cognitive, hein, aussi. On est quand même, je trouve qu'on est quand même dedans, dans ce, alors c'est soit de la dissonance cognitive, soit de l'évitement, tout bêtement. Et c'est dur de lutter contre ça. Déjà, c'est dur de l'identifier. Et même quand on l'identifie, c'est tellement puissant, c'est un tel inconfort, c'est un tel, et je voulais modestement, honnêtement, juste donner des clés en disant, bah, écoutez les gars, si vous voulez essayer, voilà des pistes. Je pense encore une fois qu'il faut avoir la maturité d'admettre qu'on peut pas forcément faire plus. Enfin, moi, si quelqu'un y arrive, bon courage, j'en serais ravie, mais et je pense, dans l'état actuel du monde, je pense de toute façon, rien qu'avoir des gens de bonne volonté qui essaient, déjà, ce serait un vrai pas. Et je pense que beaucoup, il y a certaines personnes qui n'essaient pas, je pense aussi, pas juste par lâcheté ou à cause de la dissonance cognitive, mais peut-être parce qu'ils se disent que de toute façon, on n'y arrivera pas, au fond. Et parce que c'est. On vit peut-être un peu, moi c'est totalement subjectif de ma part, mais on vit peut-être un peu dans une culture où faut réussir tout de suite aussi. On essaie, on va se rendre compte qu'on n'y arrive pas tout de suite. On va réessayer, on va se mettre un coup de pied au cul. Des fois, on va se dire, ah, non mais c'est pas possible, je suis nulle, je sais pas, peut-être. On va se désespérer, mais on va essayer petit à petit de faire l'effort. Et rien que de faire un tout petit peu l'effort, on y arrivera un tout petit peu. Enfin, rien que de faire régulièrement l'effort, on finira par y arriver un tout petit peu. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on y arrivera vraiment bien. Et on n'y arrivera jamais complètement. Mais déjà en faisant ça, je pense qu'on peut contribuer à améliorer significativement, si ce n'est le monde, au moins notre entourage. Et que par ricochet, ça peut avoir de vrais effets. Si j'avais une vraie prétention sur ce livre, ce serait de contribuer à changer ce paradigme qui consiste à ne pas se remettre en question. Pour beaucoup de gens, se remettre en question, ça consiste à admettre ses défauts. Mais non, désolé les mecs, vous pouvez dire j'ai un défaut et c'est comme ça, c'est pas se remettre en question, c'est honnête, mais c'est pas se remettre en question. Et après, l'idée, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé, encore une fois, de viser l'éveil, hein, mais je veux dire, à partir du moment où on se déclare sceptique, pour moi, ça devrait être la base. Avant de faire des listes de sophismes et de paralogismes et tout ça, ce serait d'appliquer ça à soi. C'est ce qu'on dit souvent, dans les milieux militants. Quand des gens qui ne sont pas concernés par les discriminations, par exemple, ou même ceux qui sont concernés, mais on dit principalement aux pas concernés, la base du militantisme, c'est de se remettre en question soi. Par exemple, moi, je suis une femme blanche. J'ai très envie de lutter contre le racisme parce que le racisme, c'est mal. Et comme je ne suis pas, et comme j'ai envie, voilà, j'ai mon petit ego, j'ai envie d'agir, ben j'ai envie d'aller sur le terrain et j'ai envie d'ouvrir ma gueule et j'ai envie de donner mon analyse de personne qui ne l'est jamais ou quasiment jamais été concernée par le racisme, en tout cas pas par un racisme systémique, et qui n'est même pas fait des, qui n'a même pas fait d'études sur ce sujet, qui pourrait me prévaloir un vague statut d'expert. Et non, la base, c'est de te regarder toi et d'essayer de t'améliorer toi. Une fois que tu as fait ça, petit à petit, tu vas aller plus loin. Et je pense que c'est pareil. Ça demande une certaine humilité, mais dans le scepticisme scientifique, c'est pareil. La base, c'est pas d'aller emmerder des gens qui croient au monstre du Loch Ness en leur disant. Et puis en plus, franchement, faut choisir ses batailles quand même au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on en a à cogner que quelqu'un croit au monstre du Loch Ness? Je veux dire, après, voilà, ça peut être agaçant. Moi, régulièrement, moi, j'achète des pierres semi-précieuses parce que je trouve ça joli. À chaque fois que j'y vais, les vendeurs, ils essaient de réaligner mes chakras. C'est particulièrement gonflant. Mais au bout d'un moment, encore une fois, choisissons nos batailles, peut-être. C'est pas aller forcément emmerder les gens qui croient des trucs perchés ou qu'on juste stupides. Ça commence par se remettre en question soi. Et un truc, au-delà du fait que c'est utile pratiquement de se remettre en question, je pense qu'à partir du moment où on a fait le travail sur soi, On devient beaucoup plus diplomate. Et quand je dis diplomate, ce n'est pas dans le sens, à caresser dans le sens du poil. C'est beaucoup plus efficace quand on va confronter les personnes face à leurs propres irrationalités, ce qu'on veut faire à la base quand on est sceptique. Je pense que si on a fait le travail, on sait comment sortir progressivement de certaines irrationalités, comment se remettre en question. On l'a vécu et on sera beaucoup plus efficace quand il s'agira d'aller parler à d'autres personnes plutôt que d'aller dire c'est des cons et leur expliquer comment il faut penser. Je suis souvent impressionnée par l'absence de qualité rhétorique de base de la communauté sceptique. Alors que pour moi, ça devrait être lié. Le travail sur les sophismes, c'est aussi apprendre à avoir un minimum de rhétorique, au moins par écrit. Et quand je vois, par exemple, notamment la manière dont le complotisme est traité, et ah les cons! Alors déjà non, pour le coup, si vous aimez, puisque vous aimez aller regarder les publics scientifiques, les complotistes ne sont en général pas des cons. Ils ont même un QI, d'après les dernières études. Alors si on reste sur le QI avec toutes les limites que ça peut avoir, mais leur QI est en général légèrement supérieur à la moyenne. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les différentes les études les plus récentes que j'ai pu lire. C'est pas totalement absurde. Pour être capable de faire ses propres recherches, même en les faisant mal, faut quand même certaines capacités intellectuelles, en fait. Même si on ne sait pas bien faire des, même si, on... enfin après, il faut savoir, ces gens ne savent pas faire les recherches, savent pas checker les sources et tout ça. Donc traiter les complotistes de cons, non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est faux. Et je pense que oui, faire le travail sur soi, encore une fois, va nous permettre de mieux comprendre les irrationalités des autres, même si ce n'était pas les mêmes que les nôtres, même si celles des autres nous paraissent forcément plus absurdes que les nôtres, et d'être un peu plus efficace dans la lutte, puisque manifestement, on veut lutter. Alors.
Choisir ses batailles, je vais retenir ça, c'est très bien. Éviter d'aller taper sur les croyances populaires quand il y a peut-être d'autres choses plus importantes à remettre en question.
Et c'est ça, mais c'est même pas de moi, ça, j'ai vu d'autres sceptiques le dire, c'est que c'est au bout d'un moment. Alors oui, enfin, franchement, moi, ça m'énerve hein, quand je vois des gens. En fait, ce qui est énervant, ce qui m'énerve, c'est pas que les gens croient à ces choses-là, c'est qu'ils présentent ces choses-là comme si c'était des faits. Quand je discute avec des copains qui sont croyants, jamais ils vont me parler de leur dans une religion, hein, j'entends, jamais ils vont me parler de leur religion comme si c'était des trucs factuels. Il y a une espèce avec les gens qui vont croire aux esprits, par exemple, ou à la lithothérapie ou des choses comme ça. Il y a une manière à dire quand on vend la pierre, par exemple, je reviens à ça. Alors il faudra penser à la purifier, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Et c'est super énervant parce qu'ils nous auraient ils auraient présenté les choses autrement en disant bon ben alors traditionnellement on pense que cette pierre travaille sur le tel chakra et donc ça permet de voilà donc ils auraient commencé par traditionnellement on pense que ou ça n'énerve pas pareil et c'est vrai quand ils commencent à vous dire alors cette pierre va aider tel chakra on voit la pente glissante on sait qu'après, il y a des gens qui vont essayer de soigner des cancers avec ça. On se dit, au secours, au secours, au secours, je dois sauver cette âme égarée, ou je dois l'empêcher de nuire. Mais donc, oui, autant j'ai envie de lutter contre ce discours qui enfin, ces gens, je trouve ça totalement incorrect en plus. C'est ça que j'aime pas aussi avec les gens qui viennent frapper à votre porte, les témoins de Jéhovah et tout. C'est même pas qu'ils croient à leur machin. À chaque fois, j'ai envie de dire, mais est-ce que moi, je vais frapper chez vous? Pour vous dire que ce que vous pensez, c'est des conneries. Non, je respecte votre maison, votre intimité. Je viens pas emmerder le monde. Donc ça, effectivement, oui, il y a quelque chose de très incorrect et de très prêchi-prêcha. Et effectivement, il peut y avoir un danger à ça, notamment. Enfin, moi, j'en ai vu une fois qui a fait ça à mes gamins. Bon, là, j'avoue que j'ai un peu haussé le ton. Mais en soi, que ça aide les gens de penser que telle pierre va les calmer. Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne? Alors oui, moi aussi, j'aimerais qu'ils admettent que, ok, c'est pas rationnel, mais moi, ça me fait du bien d'y croire. Spoiler, quand vous discutez posément avec ces gens qui y croient, vous vous rendez compte que souvent, en vrai, c'est ce qu'ils font. Je parle pas des vendeurs qui vendent leurs trucs. Vous vous rendez compte que les gens qui commençaient à avoir votre petite pierre, ils vont admettre bien volontiers que ce, bah, voilà, ils savent pas si c'est vrai ou pas, mais ils y croient et ça leur fait du bien. Comme quoi, les gens sont pas aussi cons qu'on aimerait le croire quand on se déclare sceptique. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui commencent à dire dans la communauté sceptique que peut-être qu'au lieu d'aller voilà, emmerder ceux qui croient aux esprits ou ce qu'on veut, si on s'occupait de problèmes un peu concrets, si on adaptait cet esprit, on utilisait ce scepticisme pour lutter contre des vrais problèmes, notamment pour disséquer les discours politiques, y compris les discours politiques de notre temps, de notre camp, pardon, pour décrypter un peu plus les médias. Bon, ça, on le fait un peu, pas assez, mais on le fait. Ce serait peut-être un peu plus intéressant et effectivement, ça demanderait un peu plus d'énergie. Effectivement, faudrait lutter contre un peu plus de réticence en face. Effectivement, du coup, ça demanderait un peu plus de courage qu'aller dire il croit aux fantômes. Et je vais vous expliquer pourquoi il a tort. Oui, effectivement, ça demande un peu plus de courage. Mais bon, bah, puisque vous vous déclarez sceptique et puisque manifestement c'est votre bataille, bah, désolé les gars, faut un peu de courage. Et donc, il faut supporter l'inconfort d'avoir des contradicteurs en face, d'avoir des gens qui, si vous critiquez un discours de gauche, va vous dire que vous êtes de droite et inversement. Ah oui, là, ben ouais, vous allez prendre cher, vous allez prendre comme ce que vous mettez dans la gueule des militants. Et peut-être que du coup, vous ferez preuve d'un petit peu d'empathie. Mais voilà, à bout d'un moment, encore une fois, c'est bien de servir à quelque chose, quoi. Ou alors, il ne faut pas se déclarer des militants, il faut foutre la paix aux gens, quoi. Ils ne se déclarent pas militants, les sceptiques qui viennent emmerder le monde, mais ils le sont dans les faits. Donc, soit vous militez et vous assumez les conséquences, soit bah, fermez-la peut-être, je sais pas, laissez les gens vivre, quoi, je sais. Et qui a réussi à faire changer d'avis à quelqu'un qui était dans une superstition en le traitant de con, voilà, ou en essayant de lui expliquer comment penser? J'attends, hein, ma perso, je l'ai jamais vu. Hein.
Mais pas grand monde, je pense.
Après, on se sent après, hein. Qu'est-ce qu'on se sent intelligent?
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà. Mais l'onanisme, je trouve, c'est bien en privé, en fait.
Non, mais ça fait du bien de temps en temps.
Ah oui. Ah bah ça peut défouler, hein. Non, mais après, j'avoue, moi-même, ça m'est arrivé, hein, des fois, quand il y en a un particulièrement désagréable, je me le suis payé, hein. Mais je me suis payé parce qu'il était désagréable, pas parce qu'il croyait à des trucs que je trouvais idiots. Mais oui, voilà. Et puis aussi, c'est quand j'essaie de, je suis rarement sur le debunk pur, mais quand j'essaie de pointer ce qui ne va pas dans un discours, après, c'est aussi les gens ne savent pas s'arrêter quand ils débattent, surtout par écrit, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai aussi effleuré ça un peu dans le livre. Moi, par exemple, quand je débat, entre guillemets, sur Facebook, ça m'est arrivé de répondre à des gens. En fait, ce n'est pas pour la personne à qui je répondais que j'argumentais, c'est pour tous les gens qui allaient lire. Et si on veut faire ça efficacement, en fait, il ne faut pas qu'il y ait plein de sous-fils, plein de discussions, plein de pinaillages. Il faut être très rigoureux. Donc, en fait, déjà, ne l'ouvrez pas quand vous maîtrisez pas super bien votre sujet. Même si vous savez que la personne en face a tort, vous allez vous faire défoncer si vous maîtrisez pas votre sujet. Parce qu'il y en a qui vont le mépriser plus que vous et qui vont pas aimer qui, eux, enfin, qui sont pas forcément bienveillants et qui vont vous montrer vos propres erreurs de raisonnement. Donc, apprenez à vous taire. Encore une fois, le fait commentaire ouvert, ça ne veut pas dire qu'on vous a sonné, ça veut dire que vous avez le droit de parler, c'est pas obligé. Donc c'est difficile hein, des fois, mais il faut savoir qu'il y a d'autres gens en fait sur le réseau social qui eux vont intervenir et eux savent de quoi ils parlent. Personne n'attend spécifiquement votre opinion. Et donc, mais par contre, quand vous maîtrisez le truc, faites un post, pas trop long, pas trop court, exhaustif, précis. S'il y a des gens qui vous répondent, précisez votre pensée ou nuancez-la, parce que des fois vous avez pu dire une connerie, ou nuancez-la une fois, et après vous vous barrez. Votre poste, il est toujours là. Et si vous continuez à pinailler, votre message de départ va être totalement dilué. Il va y avoir 500 messages, plus personne ne le verra. Et faut apprendre un peu à mettre son ego de côté et être efficace, je trouve. Et apprendre à bien à être un bon rhéteur aussi. Quand je dis pas manipulateur hein, quand je dis ça, mais si on n'est pas bon à l'écrit, il ne faut pas débattre par écrit, en fait. Ça peut sonner super élitiste de dire ça, mais moi, par exemple, je ne suis pas très bonne pour débattre à l'oral, bah, je débat à l'écrit. Et c'est pareil dans l'autre sens. Et je sais qu'on est tenté parce qu'on est vite énervé et tout. Mais encore une fois, si on veut vraiment se battre pour l'esprit critique, bah, faut être capable de mettre notre ego de côté et il faut être capable de faire ce qui est efficace. Et il faut être capable d'avoir le respect de base des gens, même si on ne respecte pas leurs opinions. J'ai vu, enfin, il y a des gens avec qui j'ai débattu. Franchement, je trouvais que c'était des sous-merdes, les gens, ces gens-là, quoi. Mais je ne les ai pas traités comme tels. Et parce qu'encore une fois, ce n'était pas à eux que je m'adressais, c'était avec les gens qui auraient pu être contaminés par leur discours. Et donc, voilà, on peut, faut, encore une fois, il faut avoir la maturité d'admettre qu'on ne peut pas faire plus qu'exposer les choses et espérer que les gens auront l'esprit suffisamment ouvert pour les voir. Il y a toujours des gens qui sont comme ça, qui vont vraiment lire votre. C'est pas forcément ceux que vous voyez plus. On a toujours l'impression. Ça m'énerve quand j'entends sur les débats. Oh, de toute façon, on peut pas débattre sur les réseaux sociaux. Bon, les gens qui disent ça, pour moi, c'est des gens qui savent pas débattre tout court, en fait. C'est juste que dans la vie, bah, vous allez arrêter avant de vous prendre un poing dans la gueule. Et c'est pas pour ça que donc vous allez vous modérer un peu plus. Ou alors vous allez être dans le consensus, voilà. Et forcément, bah, du coup, vous allez pas vous énerver. Mais si, on peut évidemment débattre sur les réseaux sociaux. Les gens qui vous lisent, ce n'est pas forcément les gens qui interviennent. Évidemment qu'on peut changer le paradigme en montrant une autre manière de penser, posée avec du recul, basée sur les faits. Évidemment que va y avoir un public pour ça. Et par contre, oui, évidemment que vous n'allez pas faire changer d'avis quelqu'un qui est en totale dissonance cognitive, surtout s'il y a 15 personnes qui sont en train de le traiter de con, et il n'est pas forcément en public, il n'est pas forcément dans les meilleures dispositions, mais les écrits restent encore une fois. Enfin, après, ça dépend des réseaux sociaux, un peu moins sur Twitter, mais voilà, faut avoir cette lucidité, effectivement, du fait que qu'on changera pas le monde en exposant des faits, mais avoir aussi se rendre compte quand même que oui, il y a des gens qui sont disposés à faire preuve de recul et que ces gens-là, vous allez les perdre si vous vous comportez comme des connards, en fait. C'est malheureux. Et effectivement, c'est pas aussi valorisant de réussir à faire changer quelqu'un d'avis en direct, mais ça, vous n'y arriverez pas de toute façon. Donc...
Ouais, je trouve que tout ça, c'est des très bons conseils aussi pour préserver l'image de la posture sceptique, du scepticisme sur les réseaux, quoi. Si vous avez encore un peu de temps, j'ai deux, trois questions par rapport, cette fois, plutôt à la place de l'art dans le scepticisme. Enfin, que ça soit la littérature ou la bande dessinée, comment le scepticisme peut intégrer l'art, parce que souvent c'est un médium qui est très peu utilisé, hein, je trouve, et l'efficacité de la BD ou de la littérature dans tout ça, parce que souvent le scepticisme c'est un discours assez construit, ça ressemble à une dissertation, quoi, que ça soit à l'écrit ou en vidéo. Et en BD, en littérature, comment ça se traduit?
Bah, en fait, pour moi, en BD, en littérature, l'idée, c'est surtout de proposer d'autres modèles. Alors après, il y a aussi des livres qui sont, même en fiction, qui sont un peu didactiques, qui présentent très clairement des idées. Ça se fait pas mal en RDSF, notamment. Mais donc après, moi, je suis pas très sensible à ça, donc je préfère. Encore une fois, lire des essais dans ces cas-là. Mais la fiction pure, et puis la pop culture, d'une manière générale, est très intéressante parce que elle utilise la société telle qu'elle est pour proposer des modèles en accord ou en remise en question. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Et moi, j'ai fait des livres grand public, notamment bande dessinée. Et souvent, j'ai déploré que le héros en pop culture est souvent quelqu'un d'assez moyen. Et puis qu'il n'y a pas une personnalité très marquée. L'intello, pour le caricaturer, c'est le sidekick. Et c'est jamais une vertu cardinale, en fait. Mais je dis l'intello, ça marche sur d'autres. Ça peut être le sage, ça peut être le fort, le puissant. Tous ceux qui ont des vraies qualités marquées. Sont des sidekicks et ces qualités sont rarement mises en. Alors, il y a des Il y a des raisons intelligentes pour ça et il y a des raisons un peu manipulatrices aussi. On s'imagine qu'un héros un peu creux, tout le monde va pouvoir s'y projeter. Voilà. Bon, moi je trouve ça intéressant d'avoir des modèles de héros, pas forcément plus malins que tout le monde et hautains, parce que le problème c'est que l'intello soit représenté comme ça, ou alors comme un geek, enfin comme un nerd qui sait pas, qui est totalement handicapé socialement. Je pense qu'on peut montrer l'intelligence au sens large, ou même encore mieux, sur des personnes qui ne sont pas spécialement ultra brillantes intellectuellement, montrer cette espèce de sagesse du recul sur soi comme exemple. Et notamment, je parle, j'ai une série de romans en fantasy qui s'appelle Les Rhéteurs. Ça annonce la couleur, mais l'idée c'est à chaque fois enfin, de suivre le cheminement d'un héros ou d'une héroïne qui se retrouve dans une société qui est très différente de celle à laquelle il ou elle est habitué et de voir sa remise en question de manière très très introspective. Il y a toujours uniquement le point de vue de ce héros ou cette héroïne, il n'y a pas de changement au sein d'un roman donné, et de voir son évolution, de voir les questions qui se posent. Alors pour l'instant, il y a 3 tomes sortis. Je pense que sur le premier, j'ai été un poil trop explicative par moment. Enfin, bon, on ne me l'a pas spécifiquement reproché, c'est moi qui me dis ça. Et je pense que j'arrive à faire de plus en plus finement, mais justement, voilà, avoir comme modèle. Ces héros qui se remettent, qui réfléchissent, qui se remettent en question, qui se remettent pas. Alors après, faut pas être naïf, faut pas faire la personne qui va totalement changer d'un coup, voilà. Mais montrer ce processus de remise en question avec des héros qui le font, ça, je trouve ça très intéressant. Après, c'est comme ça que je fais. Enfin, je veux dire, les militants d'autres causes l'ont très bien compris. Hein. Quand on parle de représentation dans la pop culture, ça peut être fait de manière très artificielle et gratuite, ou ça peut être très bien fait, mais ça contribue à changer le paradigme d'avoir plus d'héroïnes ou plus de personnes racisées. Voilà. Donc, des fois, c'est vraiment très gros sabot. Je vois, par exemple, je trouve dans certaines séries Netflix, c'est vraiment pas fin, quoi. C'est l'impression qu'il y a un cahier des charges. Mais le fait est que ça peut se faire de manière tout à fait fine et réaliste. Voilà. Et je pense que le scepticisme peut le faire de la même façon, en fait, juste en ayant des héros qui ont ce type de raisonnement et montrer que c'est pas si rare. C'est assez marrant sur les rhéteurs. J'ai eu, enfin, je n'ai pas eu beaucoup. La plupart des gens n'ont pas dit ça du tout, mais j'ai eu quand même quelques réactions qui me disaient non, mais enfin, de toute façon, c'est pas réaliste des personnages qui se posent autant de questions et tout. Donc, déjà sur le moment, j'avais trouvé ça un peu violent parce que j'étais en train de me dire, t'es en train de me dire que moi, je suis pas réaliste ou t'es en train de m'expliquer que la manière dont je pense, en fait, c'est pas comme ça. Et sur le moment, enfin, ça m'est arrivé 2 fois. Et les 2 personnes, j'avais envie de le dire, mais change de pote en fait, parce que si c'est réaliste, si ces gens existent, ces gens ne sont juste pas représentés. Et du coup, j'ai trouvé ça quand même très intéressant comme réaction de se dire que c'est au point qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas de penser comme ça. Et c'est pour ça que je trouve ça important de le faire par l'intermédiaire de la fiction ou de l'art. Et c'est pas si dur, honnêtement. Enfin, c'est pas si dur. Après, moi, c'est mon métier d'être autrice de fiction à la base, je veux dire, mais je veux dire, c'est on peut vraiment s'en emparer. Et je l'ai beaucoup fait dans mes livres de manière, enfin, dans Les Rhéteurs ou dans un autre roman que j'ai écrit qui s'appelle Face au dragon. C'est un roman young adult où là, voilà, c'était le principe de justement d'avoir le point de vue du sidekick, l'intello. Ça reprenait un peu les tropes avec le héros et puis le fort, le sage, l'intello, celui qui a du cœur, si on veut. Et prendre le point de vue de l'intello. Donc, mais oui, non, c'est vraiment quelque chose qui est très faisable. Et je trouve que ça peut vraiment, on sous-estime vraiment, je trouve, le pouvoir de la fiction et de la pop culture en particulier de changer les paradigmes. Et alors que c'est très, très, très puissant, je trouve, vraiment.
Est-ce que le récit peut aider un apprentissage, le fait d'apprendre une notion autrement que par un pur discours théorique?
C'est le principe du conte, hein. Et c'est aussi même pour ça que des, enfin c'est tous les tout, toute la culture populaire est basée là-dessus. Et il y a même certaines, bon, alors là je sors un peu de mon domaine d'expertise, mais il y a même certaines religions qui basent leur prêche sur des contes, bah, puis toute la mythologie grecque. Hein, je sais pas pourquoi je suis en train de réinventer l'eau chaude là. Donc oui. Et ça utilise, un biais cognitif, hein, enfin des biais cognitifs d'ailleurs, de passer par l'intermédiaire de la fiction, de l'allégorie, de l'image. Ou chaque fois quand même quand on fait une punchline. Rien que ça, ou les slogans politiques, c'est le biais cognitif, c'est le biais de l'humour. Alors, c'est bien de l'humour parce que quand on entend un truc sous une forme rigolote, on va le retenir mieux, mais au sens plus large, ça va pas forcément être un truc humoristique, ça va être une punchline, un truc qui sonne bien, et ça va nous, et ça, on va le retenir. Alors, si on vous avait dit, alors ça se passe comme ci, en fait, comme ça et tout, on l'a pas revu, alors c'est exactement la même info. Et le pouvoir de la fiction est énorme aussi là-dedans. Oui, voilà, c'est tout le principe des contes populaires, de beaucoup de traditions orales et des mythologies.
Vous avez travaillé ensemble avec Gali pour trouver les métaphores visuelles de la bande dessinée. Parce qu'il y en a certaines qui sont très fortes, qui prennent beaucoup de place visuellement, qui restent en mémoire. Après, les métaphores, il y en a qui peuvent induire en erreur parce qu'elles créent des contresens, parce que le sens du dessin n'est pas le même. Voilà, je ne suis pas allé dans le détail au point de voir à quel point c'était le cas dans la BD, mais je sais que ça peut arriver.
Bah alors, en fait, la plupart des idées visuelles, c'est égalé. Moi, j'avoue que j'ai une imagination vraiment plus écrite. Et du coup, c'était super de bosser avec elle. Et en plus, parce que Gali, elle n'a pas de formation scientifique, elle n'était pas forcément super au fait de ses sujets. Et elle est très intelligente. Et du coup, c'était vraiment super parce qu'elle avait, j'avais à la fois, quand je voyais que, quand elle me disait c'est pas clair, je savais que c'était vraiment pas clair parce qu'elle était très intelligente et si elle pige pas, c'est très clairement que mon néophyte ne pige pas, ne va pas piger. Et elle a une imagination visuelle prodigieuse. Donc, je suis énormément reposée sur elle là-dessus. Après, je donnais des indications, je donnais vraiment l'idée qui devait ressortir. Par contre, bon, si c'est l'histoire du dragon, une corrélation n'est pas une relation de
Par
cause à
exemple.
effet. Ça, c'était mon idée. J'ai dit, je veux la double page. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'au début, Galim, on avait un peu discuté de la place que ça prenait et tout ça. J'ai fait, non, mais ça, c'est une double page parce que si les gens doivent retenir un seul truc, du bouquin, je veux que ce soit ça. Et elle a beaucoup, beaucoup marqué les gens. Je sais plus qui a eu l'idée du dragon. Je sais que moi, il se transformait, dans mon scénario, il se transformait en quelque chose qui balayait tout. Je sais plus, c'est moi qui ai eu l'idée du dragon. Mais très clairement, là, la double page et le truc braillé et tout, je sais que je voudrais pouvoir en faire un poster de ce truc. Et donc, oui, là, ça, c'était mon idée. Mais sinon, la plupart des idées visuelles, c'est Gali et elle a vraiment, vraiment cartonné là-dessus. J'avais quelques idées visuelles que moi j'avais eues, que elle a modifiées sur des trucs qui étaient beaucoup plus efficaces. J'ai pas d'exemple en tête là parce que on a mis vraiment de temps à écrire ce livre. C'était pas facile à écrire, à faire comme livre parce qu'il fallait être vraiment, on voulait être synthétique et en même temps on voulait pas donner trop d'infos, sachant qu'on en donne déjà beaucoup. C'est un énorme travail de synthèse. Et pour elle, un énorme travail de mise en image, enfin, de réfléchir à toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière chaque dessin. Et donc, c'était vraiment, vraiment un gros travail. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de textes taillés à la serpe. Là, des gens me disent qu'il y a beaucoup de textes. Elle n'avait pas vu la première version. Et oui, non, elle a eu des idées vraiment, vraiment top. Et c'était une super collaboration. Vraiment.
Oui, bah, en la lisant, franchement, j'ai ressenti la difficulté que ça a été d'écrire parce que je traite dans les milieux sceptiques depuis plusieurs années. Donc, la plupart des discours qui sont dans la BD, je les connais un peu. Et je sais à quel point ils peuvent être creusés, à quel point ils peuvent être fouillés, à quel point ils peuvent prendre de la place textuellement. Donc, les voir condensés, mais toujours clairs, avec des métaphores visuelles à côté, agencés dans un scénario, je me suis dit, mais quel défi, quoi. C'est fou.
Ah, franchement, c'est un des bouquins les plus fatigants que j'ai eu à écrire. En fait, le truc, c'est que je sais que je suis bonne en synthèse. Je sais que je sais le faire et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Mais c'est pas parce que je sais le faire que j'aime le faire. Moi, j'aime écrire des aventures, j'aime écrire des grandes introspections dans la tête de mes personnages, j'aime avoir des dragons qui envoient des vannes, et des combats d'épée, et des scènes émotionnelles et intellectuelles à la fois.
Alors pourquoi ne pas écrire un pur récit de fiction qui arrive à synthétiser ces idées d'esprit critique? Est-ce que
Ah,
c'est trop compliqué par rapport au concept à vulgariser?
parce que je suis pas très bonne en allégorie, tout bêtement. Enfin, je suis pas très bonne avec tout. Je pense être trop terre à terre pour ça. Je pense que ce travail, ce sera l'ensemble de mon œuvre quand elle sera finie. Il faudra tous les lire. C'est bien, ça me fera des droits d'auteur. Et là, je pense que non, ça demande un talent d'abstraction que j'ai pas forcément de... Après, j'imagine pas quand on bosse, on y arrive, mais j'ai pas ce sens du conteur qui arrive à faire ça de manière aussi efficace, en fait. Là, je pense que ça va demander un esprit un peu moins terre à terre que le mien, mais oui, c'est quand même déjà bien présent, hein, dans mes bouquins de fiction.
Ok, super. Bon, on arrive à la fin de mes questions. Enfin, en vrai, j'en avais 10 000, mais il y en a beaucoup qui ont été anticipées pendant qu'on discutait.
Ouais, j'ai un peu tourné en
Non,
rond,
mais
hein,
c'est très
j'espère
bien.
que
Je préfère ça, que ça soit plus une discussion libre qu'un interrogatoire.
Je suis partie du sortir de mes réflexes, tu sais, quand je te disais, je t'ai vouvoyé pendant toute l'interview parce qu'on avait commencé sur le vous, mais ça me fait bizarre.
Oui, pardon, mais ça me fait bizarre, en fait. Voilà, je te tutoie, c'est mieux.
Ouais, mais en fait, comme sur le début, on avait commencé par le vous, je me suis dit, je vais rester sur le vous parce que sinon, ça va faire chelou
En effet.
après. Mais ouais, non, là j'ai fait des radios, et sur les radios nationales, ils me disent, enfin, là dernièrement, il me fait, ouais, l'interview dure 10 minutes, il m'envoie la liste des questions, il y avait 10 questions, quoi, attends les gars. Donc c'était des très bonnes questions, hein, mais du coup, en plus, comme moi je suis pas, enfin, à l'oral, j'ai tendance à piapiater un peu, c'est chaud, quoi. Et alors, ceux qui m'ont pas envoyé les questions en avant, je dis, tant pis que vous démarrez le montage, les gars, c'est votre problème.
Ah non, mais c'est terrible, on peut
Non,
pas.
non, non, c'est un truc important, donc.
C'est cruel comme exercice, 10 questions en 10 minutes.
Ah ouais, non, c'est. Bon, en plus, au final, ils ne les ont pas toutes posées. Hein. Ce qui vous laisse un peu de marge. Mais après, non, mais enfin, c'est aussi un bon exercice. Ça apprend à aller au fait et tout. Et puis bon, de toute façon, on est toujours content quand on se retrouve sur des grosses radios, quoi. Mais ouais, non, c'est pas évident. Hein. En plus, comme moi, j'essaie d'être précise. Alors, par écrit, il faut trouver le mot juste, donc ça va, mais à l'oral, le mot juste, il vient pas forcément immédiatement, donc c'est vrai que j'ai tendance à rajouter des mots pour dire, ah ouais, alors en fait, j'ai dit ça, mais moi, ouais, j'aurais plutôt dû dire ça. C'était pas exactement le bon mot. J'ai un peu. Mais ouais, non, mais bon, c'est cool, on a de très bons retours, hein, sur le bouquin. On a des notamment, ça a quand même relativement buzzé dans la communauté plus enseignant. Enfin, enseignant au sens large, je sais qu'on s'est retrouvé dans un cours d'épistémologie, donc là, je suis là, ouais, ça, j'étais contente. Et après, bon, je sais qu'on a eu quelques retours sur le fait que des fois, c'était un peu trop condensé, mais ça, c'est sur la partie scientifique. Et le truc, c'est que c'est fait exprès, quoi. Et c'est pas un livre pour parler de science, c'est un livre pour parler de l'application de bonne foi, de rhétorique, de rhétorique. Rigoureuse et des choses comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai que la partie histoire de la science, démarche scientifique, elle peut paraître trop condensée. Bon, c'est pas le sujet du livre et ça sert de base pour le reste.
Bah oui, c'est ça, je trouve que c'est important d'en parler. Après, j'ai aussi mis de l'histoire parce que je trouve que beaucoup de bouquins sceptiques sont à fond sur les sciences dures. Et que l'histoire. Et en plus, et le coup, c'est l'histoire de la pensée critique. C'est pas l'histoire des sciences aussi, ça. J'ai vu beaucoup de trucs sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de la pensée critique, j'ai vu assez peu de choses. Donc, enfin, il y en a, parce que c'est ce que j'ai utilisé, hein, donc je les ai mis en référence dans les annexes. Mais c'est vrai, je voulais montrer que le scepticisme scientifique, c'était pas un truc qui tombait de la lune le jour où, où il sortait le bouquin de mes sorciers devenaient savants. Là, je veux dire, ça existait quand même depuis un moment, donc c'est très cool qu'ils aient fait ça, mais j'ai l'impression que c'était la naissance du scepticisme en France, et très bien, c'est super, mais bon, ça vient pas de nulle part. Hein. Voilà. Cool, écoute, j'espère que j'ai pas eu l'air d'être trop. La religion, c'est pas difficile là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a une critique qui m'a dit que j'avais évité le sujet des religions et qui comprenait pourquoi je l'avais fait. Alors, j'ai parce que qui pensait que c'était parce que le sujet est brûlant en ce moment. Alors non, enfin, je l'ai super pas évité le sujet, je trouve quand même. Mais après, je pense que c'était quelqu'un qui voulait que je bouffe du curé, quoi. Et de toute façon, il disait lui-même qu'il détestait la religion. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas constructif, quoi. C'est pas. Et puis, j'ai pas envie de m'aliéner des gens qui pourraient être des alliés juste pour le plaisir de bouffer du curé, quoi.
Oui, c'est
Parce
ce qu'on
que
disait sur le fait d'attaquer les croyances populaires, encore une fois.
c'est ça, ouais. Et puis, hein, Encore une fois, enfin, je sais pas, moi j'ai une très bonne amie qui est catho, elle prétend pas que la Bible c'est scientifique, quoi, elle est pas con, hein, elle me dit c'est ma foi, c'est ma culture, c'est vraiment ce que je ressens, ça m'aide beaucoup dans la vie, j'y crois, et ça n'empêche pas d'exercer son esprit critique. Est-ce que ça va le limiter? Oui. Les athées, il y a d'autres choses qui limitent leur esprit critique. Et c'est vrai que des fois, bah voilà, quand je discute avec des copains croyants, je vois où ça bloque et je trouve ça dommage à titre personnel, mais chacun fait aussi avec ses qualités, avec ses limites. Peut-être que toute la mythologie qu'il y a autour des croyances, ça leur offre aussi une meilleure sensibilité à certains arguments que moi qui ai du mal avec l'abstraction, par ailleurs, moi aussi, par exemple. Je sais pas. Donc, et c'est pas comme si je pouvais changer ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je disais que stricto sensu enfin, l'agnosticisme, enfin, c'est un terme qui est souvent assez mal employé. L'agnosticisme, c'est souvent les athées disent, non, non, je suis agnostique pour pas oser dire qu'ils sont athées, mais juste admettre que tu ne sais pas, c'est l'agnosticisme. Et il y a des théistes agnostiques. Donc j'y crois, je ne sais pas si Dieu existe, mais moi j'y crois. Ça, c'est aussi une position agnostique. Et après, on peut arguer que la position, j'ai pas de preuve que Dieu existe, donc j'y crois pas, mais j'admets que j'ai pas de preuve. On peut dire que c'est faux cul parce que voilà, c'est le fameux, on n'a pas de preuve de la, voilà, ça revient sur la théière de Russell, hein. On n'a pas de preuve qu'il n'y a pas une théière en orbite autour de la Lune. Donc on peut estimer que c'est une position faux cul et tiède. Je suis pas loin d'être d'accord, très honnêtement, mais voilà, mais je voulais aborder ces sujets et je voulais voilà montrer que c'est que ouais bah souvent c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est qu'on va pas on supprimera pas l'irrationalité et juste voilà faire plaisir en tapant sur les religions, je trouve c'est un peu facile parce qu'en plus et sur les croyances d'une manière générale, parce que quand on discute avec les croyants, la plupart du temps, on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de recul qu'on le croit. C'est donc peut-être qu'au bout d'un moment la réflexion bloque, ok, mais enfin, j'ai croisé très peu de croyants et même de gens de Dieu, enfin de moines ou autres qui croyaient pas, enfin qui disaient que la Bible avait raison et pas la science, quoi. J'en sais très très peu et on part sur des extrêmes dans ce cas-là Et est-ce que, ouais, je sais pas, je vois pas tellement l'intérêt d'aller s'aliéner des potentiels alliés juste pour le plaisir de rappeler aux extrémistes qu'ils sont extrémistes. Ouais. Je sais pas.
Ouais, j'ai l'impression qu'on croise très peu de croyants finalement. Enfin, ça, c'est juste mon impression, mais dans la communauté sceptique, on parle des croyants plus qu'on ne parle avec eux. Enfin, moi,
Complètement.
je parle à très peu de croyants personnellement.
Bah, c'est ça, ouais. Bah, et moi aussi, de fait, parce que bon, bah, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on a pas forcément les mêmes. Mais tu sais, je suis sur Twitter des gens croyants qui sont justement, qui ont cette position, déjà qui sont croyants et qui vont être engagés, par exemple, dans la lutte pour les droits des homosexuels et des choses comme ça, oui, qui sont croyants et qui s'intéressent énormément aux sciences par ailleurs. C'est super rafraîchissant, ces mecs-là. En plus, il y a beaucoup de gens très fun. Et après, quand tu vois la communauté qu'ils ont, tu te rends compte que tu as vite une vision super biaisée des croyances. Et c'est aussi pour ça, bah, tiens, dans un bouquin que je vais sortir qui s'appelle Zone Tampon, c'est un bouquin pour ados, mais pour, tu sais, young adults, comme on dit, un bouquin de SF, et j'ai eu un prêtre sceptique scientifique. Je sais, c'est bon, comme ça, je vais emmerder tout le monde.
Le personnage qu'on aurait besoin de plus voir.
Mais pour l'instant, si on met un lecteur, les gens ont adoré ce personnage. Et aussi bien des gens qui étaient croyants, ou en tout cas, ou à minima, très tolérants vis-à-vis des religions, et des gens qui détestaient les religions. J'ai une copine qui est une vraie bouffeuse de curé. Elle m'a dit, allez, viens, ça m'embête de te Donc, c'est l'idée aussi, c'est de montrer, c'est ce qu'on disait sur l'intérêt de l'art et de la culture populaire, c'est de changer le paradigme, de montrer d'autres modèles, et de montrer la pluralité des gens, des raisonnements et tout ça. Donc, j'ai mon prêtre, hein. En plus, c'est mon prêtre beau gosse. Je voulais un... Il est sexy et tout. À quoi voir comment il est reçu. Ben voilà.
Merci beaucoup, encore une fois.
Bah merci en tout cas.
Merci à toi.
Et puis bon courage, sans bon courage.
Merci, il va en falloir.
Ouais.
Merci à Isabelle pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux. N'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine et que le doute soit avec vous.